Radio Royan Vercors vous propose un entretien avec Dominique Louis, costumière, à l'occasion de l'exposition « Sur un fil ou l'art de se vêtir au Moyen-Âge » présentée au musée départemental de Saint-Antoine-l'Abbaye jusqu'au 11 novembre 2024. Dominique Louis a confectionné de nombreux costumes de l'époque moyenâgeuse pour les événements des nuits médiévales de Saint-Antoine durant les années 1990. Elle nous relate son parcours, son lien avec Saint-Antoine-l'Abbaye et sa passion de la confection pour le théâtre et le cinéma. Eh bien, bonjour Dominique Louis.
Bonjour Patrice.
Et ensemble, nous allons évoquer une vie de costume, hein, comme apparaît dans votre biographie, tout votre parcours dans cette matière qui vous a porté, qui vous a peut-être aussi bercé tout au long de votre vie. On va rappeler dans un premier temps, qui est-ce qui a fait que vous vous attachiez comme ça au textile et baigné dans ce monde de costumière, de costumes et de différentes époques?
Bien, en fait, ça remonte à très longtemps. Quand j'étais enfant, j'ai eu la chance d'avoir des grands-parents qui étaient aussi très intéressés par l'art, la peinture. Et depuis l'âge de 6 ans, je me disais, je vais faire des costumes. Mais à 6 ans, c'est un petit peu compliqué d'envisager le parcours. Et par chance, j'ai pu intégrer durant mes études une structure pilote qui faisait qu'on pouvait avoir une option d'histoire de l'art. Et puis, il n'existait pas en Belgique, parce que je suis belge, il n'existait pas d'école spécifique pour apprendre le costume historique. Donc, j'ai dû me tourner plus tard vers en fait, des études universitaires, l'Université libre de Bruxelles, qui me permettait d'aborder l'histoire de l'art et l'archéologie, chose que j'ai faite et que j'ai réussi, heureusement. Mais en parallèle, je faisais déjà des costumes pour des troupes de théâtre.
Le costume et l'art, c'est une sorte d'entrelacement de passion?
C'est plus qu'un entrelacement de passion, parce qu'en fait, on a la chance, je veux dire, dans le costume, d'aborder à la fois l'image et le toucher, le textile, et de se renseigner. C'est un perpétuel, je vais dire, langage, dialogue entre quelque chose, une image que l'on souhaite reproduire, et la réalité de trouver la matière, la documentation, et de pouvoir toucher les choses. À l'époque actuelle, on a ce petit problème, qui est parfois aussi une chance, mais d'avoir Internet, vous commandez quelque chose sur Internet et vous ne pouvez pas toucher la matière. Nous, c'est très important parce qu'il faut quand même que le vêtement soit porté par quelqu'un. Donc, il y a un rapport intime entre le corps et le vêtement. Encore plus quand il s'agit d'un vêtement imposant qui fait référence à une époque.
Comment pourrait-on définir le travail? Vous avez commencé à l'amorcer, mais le travail d'une costumière, qu'est-ce qui importe dans les qualités d'une personne pour s'atteler à ce type de travail, de tâche?
Le travail d'une costumière, moi évidemment je ne pourrais parler que de mon expérience personnelle, mais je pense qu'il faut avoir une curiosité déjà, s'intéresser beaucoup à l'histoire et faire un travail préparatif, toujours en relation avec, en général, un metteur en scène. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on ne travaille pas tout seul dans son coin. C'est très important d'être en communication avec le metteur en scène, ou le chorégraphe, ou le chef d'orchestre, de connaître un petit peu les besoins, de les structurer, de faire des propositions adaptées. Parce que, par exemple, quand vous chantez à l'opéra, vous ne pouvez pas avoir un costume qui vous comprime tellement qu'il est impossible de chanter. Quand vous faites de la danse, il faut que la mobilité soit parfaite. Quand on fait de l'historique pur, il faut se rapprocher au maximum des matières de l'époque et donc forcément faire des recherches et de la documentation. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir à la fois faire, je vais dire, une approche textile, mais je construis, je dessine, si vous voulez, mes modèles. Je fais les patronages et je suis capable, si je dessine quelque chose, de faire le vêtement de A jusqu'à Z.
Le costume, c'est également des mondes différents. On peut évoquer l'opéra,
oui.
Également l'aspect théâtral, le cinéma. Vous avez évolué dans tous ces secteurs.
Oui, comme vous dites, c'est un monde multiple, le cinéma, oui, bien sûr, l'opéra, le théâtre, la danse, et donc, oui, le costume s'immisce dans des mondes multiples. En effet, aussi bien en opéra, il faut des contraintes qui sont tout à fait adaptées aux chanteurs. En cinéma, nous avons les gros plans, indispensables. Donc, il ne peut pas y avoir des trucages ou des malformations au niveau du vêtement. Il faut qu'il soit parfait. En danse, la mobilité est de première importance et de ce fait, il faut choisir des matières souvent plus légères, parfois avec de l'élasticité, qui permettent à la personne de ne pas être contrainte dans des mouvements qu'elle ne pourrait pas faire. Et dans le costume historique, il y a grande nécessité de se rapprocher d'une documentation tout à fait fiable. Et ça, c'est très important aussi.
Parlons maintenant du costume historique. Est-ce que ça revêt quelque chose d'assez particulier ?
Alors, le costume historique est quelque chose de très particulier et de très important. Depuis ma plus tendre enfance, je souhaitais vivement reproduire des costumes historiques, mais le souhait que j'avais ne correspondait pas du tout à des possibilités d'études supérieures. Donc, en fait, c'est pour ça que je suis dans les bibliothèques comme un petit rat qui cherche chaque information, parce que ça m'a permis d'aborder vraiment la réalité à la fois du patron, de retrouver par rapport à des vêtements anciens qui ont été soigneusement conservés, notamment en Angleterre, en Italie, en France, et qui permettent d'avoir des références véritables. Il existe de très nombreux ouvrages à ce point, très pointus chez les Anglais et chez les Italiens, les Français aussi, mais ça m'a permis vraiment d'avoir un regard poussé là-dessus, et puis de retrouver des illustrations qui, je veux dire, me faisaient voyager. Parce que moi, je voyageais relativement peu pendant mes études, c'est après que j'ai eu la chance de voyager.
Y a-t-il eu des époques plus riches que d'autres au niveau des costumes, des symboliques, de l'apparat plus globalement ?
Des époques plus riches, bien sûr. Moi, j'ai préférence pour la Renaissance et le Haut Moyen-Âge. Pourquoi ? Parce qu'il y a des grandes communications commerciales, il y a des voyages qui se sont faits, on a commencé à découvrir les épices, les soies, tous ces voyages qui ont permis d'enrichir toute une Europe. Et personnellement, moi, j'avais un grand faible pour au Moyen-Âge, mais l'époque élisabéthaine, pendant plusieurs années, j'ai fait des petites conférences là-dessus, parce qu'il y a une accumulation, en fait, de richesses qui ont été glanées de part et d'autre de l'Europe. Et donc, ça, c'est passionnant.
Et là, pour ce qui concerne les costumes en présence, on peut dire que c'est vraiment l'époque médiévale, hein ?
On peut dire, oui, que les costumes présents ici font partie de l'époque médiévale, mais on est plus sur du 14e, 15e siècle. C'est-à-dire, on confine avec la Renaissance qui va arriver. Et donc, on a cette richesse qui est apportée sur les textiles, sur les formes aussi. Parce que ici, nous n'avons que des costumes, nous allons dire, de nobles personnes. C'est-à-dire qui avaient des moyens, entre guillemets, là, courts, essentiellement, les costumes ecclésiastiques. Nous sommes dans un univers riche, ce qui permet aussi de proposer un nombre important de types d'étoffes, de types de broderies. Et évidemment, ça fait un petit peu rêver. Enfin, moi, ça me faisait rêver, mais j'espère que vous aussi.
On parle de costumes, d'apparat d'agrément aussi, des costumes qui donnent une stature aussi à la personne.
Absolument. Les costumes peuvent donner un code, une stature, un nom de métier aussi, parce que c'était très important que, à l'époque notamment du Moyen-Âge et de la Renaissance, qu'il y ait des signes extérieurs qui permettent de savoir à quel corps de métier en appartenait. Et même aussi, certaines nuances de couleurs étaient très importantes. Par exemple, quand on parle de la pourpre, cette couleur d'un rouge assez présent, assez foncé, ça coûtait très cher, ce type de couleur, et il n'était en général utilisé que par exemple pour les ecclésiastiques. Le bleu royal était davantage utilisé évidemment pour les nobles personnes. Après, on imagine toujours que le Moyen-Âge porte des couleurs tristes. C'est tout le contraire. On est victime souvent de restaurations qui n'ont pas été faites sur, par exemple, des tableaux où le vernis s'est grisé et on se dit, le Moyen-Âge, c'est triste. Pas du tout. Ce sont des couleurs lumineuses, joyeuses, très variées. Et il n'y avait pas de contrainte entre des couleurs qui appartenaient spécialement aux hommes et spécialement aux femmes. C'était vraiment fait de façon à ce que, il y ait toutes sortes de nuances qui étaient apportées dans le vêtement.
Quand vous réalisez un costume, il y a tout un travail en amont de recherche iconographique au niveau du texte également.
Quand je fais un travail sur un costume, ce qui se passe assez souvent, c'est évidemment, on se met d'accord sur une époque, et je fais des recherches dans les ouvrages. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les livres, donc je vais faire une recherche livresque. Et par la suite, je vais essayer de replonger par rapport aussi à des textes, des critiques, parfois des satires, parce que ça, c'est très important, les satires. Elles nous apportent aussi un regard, un peu déformé, mais très amusant, qui permet aussi d'imaginer par rapport aux vêtements, parce qu'il y a eu beaucoup de satires sur les accoutrements. Et donc, j'essaie de proposer après quelque chose. Quand je propose, en général, je fais ce que j'appelle une maquette, c'est-à-dire un dessin. Je vais échantillonner. Le plus souvent, je vais à Lyon, chez les anciens Canus et les Soyeux. La maison Valder, par exemple, est une maison que j'adore, dans laquelle ils ont le respect des traditions. Et à partir de là, soit j'ai le feu vert pour réaliser le costume, soit on dit qu'il va falloir faire des concessions sur tel et tel matériau, parce qu'on ne pourra pas le faire réellement en reconstitution historique pure.
Donc un long travail de recherche.
Oui, il faut un vrai long travail de recherche parce que c'est important de ne pas, se fourvoyer. Il faut arriver quand même à se rapprocher le plus du projet. Et puis ce projet, comme je dis, même si la recherche est quelque chose de solitaire, la proposition doit être, acceptée, valable et plausible. C'est-à-dire on a toujours une petite part de liberté, mais... on n'est pas fantaisiste. Moi, je ne vais pas vous faire des costumes en nylon si nous sommes au Moyen-Âge. Ce n'est pas possible, ça. Il y a quelque chose quand même qu'il faut respecter par rapport à une vraisemblance. Et les formes sont très importantes.
Donc, une longue chaîne avant d'arriver à la production finie. On part de l'étoffe et ensuite tout un ensemble, on pourrait dire, d'ateliers qui prend en charge chaque costume.
En fait, oui, c'est un long travail, du départ de la recherche, c'est-à-dire qu'il se fait une recherche livresque, donc dans les ouvrages, et ensuite, je vais essayer de trouver des échantillons de tissus qui correspondent à l'époque, qui soient valables par rapport au patronage, parce qu'il faut respecter les anciens patrons, et des ouvrages donc existent grâce au musée, et ces formes-là sont très importante, parce qu'un tombé d'un costume du Moyen-Âge ne sera jamais pareil à un tombé d'un costume, par exemple, de l'époque de Mozart, où on a toutes sortes d'influences différentes. Et forcément, une fois que j'ai glané ces informations, je propose un dessin que j'appelle maquette, avec des échantillons. Je fais approuver ou non, parce que des modifications peuvent intervenir. Je fais approuver la proposition, et là, il faut faire en grand, comme on dit. C'est-à-dire, par rapport soit à une comédienne, un chanteur, la personne qui doit porter le vêtement, donc il y aura des essayages. Mais c'est un moment que j'aime beaucoup, parce qu'il y a le vrai contact entre ce que l'on a cherché, trouvé, réalisé, et la personne qui va le porter. Parce que là, à ce moment-là, il faut l'apprivoiser, ce costume. C'est comme chaque chose.
Dans le domaine de la confection également, les armures, est-ce qu'on peut apparenter ça à un costume traditionnel? C'est l'affaire des costumières ou comment ça se passe pour ce type d'appareil?
Les armures font également partie du choix du costumier ou de la costumière, mais étant donné le type de confection que requièrent ces armures, puisqu'elles sont métalliques, en général, le costumier fait appel à un corps de métier bien particulier, un loueur spécialisé dans les articles de combat, comme par exemple à Paris, il existait la Maison Maratier. Pour ceux qui ont été présentés à Saint-Antoine, beaucoup d'entre elles faisaient partie de la sélection et de l'art de Monsieur Sédel, qui avait fourni entre autres plusieurs armures pour le sacre de Charles VII en 1996. Pour ce qui est du cinéma, même chose, il faut aller dans les locations spécialisées pour ce type d'article et faire un choix, parce que bien entendu, les armures, il y en a de plusieurs époques, et que chaque film reconstitution demande d'avoir une vraisemblance et une cohérence par rapport à l'époque choisie et au style. Mais pour certains longs métrages où les finances le permettent, il est tout à fait possible de faire refabriquer des armures, mais à l'heure actuelle, on les fait avec des matériaux beaucoup plus légers. C'est-à-dire que le métal n'est plus le matériau indispensable, on peut les faire en thermoformé, et grâce à l'art des patines, on peut donner l'illusion que ce sont de véritables armures, sauf qu'au lieu de peser plusieurs dizaines de kilos, elles pèsent, je vais dire 2 ou 3 kilos, ce qui est tout à fait gérable pour un comédien, d'autant plus que généralement, ces armures sont portées sur un cheval. Donc, vous imaginez les difficultés que cela peut engendrer.
Y a-t-il une notion, on va pas aller jusqu'à l'intimité, mais s'approprier un peu la morphologie de chaque personnage pour justement imaginer le costume? C'est important de ressentir la personne.
Ce qui est très important et très chaleureux, je trouve, dans notre métier, c'est à la fois de savoir que l'on travaille pour quelqu'un. Ce qui veut dire qu'on a un grand respect par rapport à chaque personne. Parce que il n'y a pas, chez nous, en tous les cas, en tant que costumier, de mannequin. On ne travaille pas sur ce qu'on va dire un corps idéal. On travaille, enfin, moi, je travaille par rapport, je veux dire, à la personne. Je suis ravie quand je peux rencontrer, par exemple, un chanteur qui va pouvoir porter un costume, un comédien qui va me dire, écoute, ça, je peux pas le porter parce que ça va me serrer. Où est-ce que tu peux m'arranger cette manche? Où est-ce que tu aimerais bien que je le porte comme ça? Il y a un vrai échange de confiance et de respect, surtout le respect. Parce que parfois, ça m'arrive aussi d'habiller des personnes toutes petites ou très, très, très fortes. Mais quelle importance! C'est la beauté de la personne. Donc, et ça, je respecte infiniment. Parce qu'autrement, je vais te dire, si c'est pour habiller des personnes, entre guillemets, idéales, quelque part, ça refroidit l'inspiration. Moi, ça ne me va pas. Ça ne me convient pas.
Ben, l'aventure des costumes à Saint-Antoine-l'Abbaye, c'est aussi une aventure humaine. On peut rappeler justement l'objet de ce qui a fait naître aussi cette passion des costumes à Saint-Antoine.
Alors l'aventure des nuits médiévales de Saint-Antoine, ça c'est pour moi une des plus belles aventures. Et surtout, bon, grâce à Alain Carré qui est un metteur en scène, qui est aussi un récitant, et que je connais depuis très longtemps puisque nous avons commencé à travailler ensemble à l'âge de 16 ans. Puisqu'à l'époque, il faisait déjà des très beaux spectacles en Belgique. Et un jour, il m'appelle et il me dit, écoute, il faut que tu viennes absolument. Il y a une petite ville, un grand village, mais exceptionnel. Et il s'appelle Saint-Antoine, l'abbaye. Et je pense qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Et grâce au soutien du département de l'Isère, Alain a pu proposer de commencer les nuits médiévales, c'est-à-dire une somme de spectacles, spectacles de rue, chants qui pouvaient se faire dans la magnifique église de Saint-Antoine. Et il a dit, bah, écoute, est-ce que tu peux venir? Est-ce que tu peux concevoir des costumes? Et donc en 1991, l'aventure a commencé et a duré pendant 10 ans. Et c'est des rencontres exceptionnelles. Voilà, parce qu'une fois qu'on vient à Saint-Antoine, eh bien, ça reste un souvenir pour la vie.
Avec, pour préciser, de nombreux costumes fabriqués tout au long des années.
Alors, tout au long des années, évidemment, chaque année était un défi par rapport au costume. Un thème était lancé et il fallait concevoir et fabriquer ces costumes. La première année, le musée n'avait pas encore été complètement restauré, donc j'avais mon atelier dans la petite chapelle qui sert à l'heure actuelle d'entrée. Et tout le monde venait avec un bout de tissu, une étoffe retrouvée dans le grenier. Et moi, j'avais amené plein de tissus, de galons et autres. Et on a composé à la fois des costumes et de très belles rencontres. Et puis, les années suivantes, comme ça a donné lieu à une progression, mais assez rapide, Alain a souhaité faire des thèmes très particuliers. Comme par exemple, la dernière année, on avait fait un défilé de toutes les dames du Moyen-Âge. Il y a eu une année où on a fait la cour de Charles VII, une autre année consacrée aux chevaliers à l'époque des Templiers. Donc, chaque année a apporté un thème qui faisait, je veux dire, une ouverture sur le Moyen-Âge, avec beaucoup de petites pièces de rue, parfois des textes anciens. Et puis, je me souviens aussi, ce qui était sympathique, parce qu'il fait froid le soir à Saint-Antoine, il y avait la soupe pour le peuple, avec des petits bols en terre qui étaient fabriqués par Véronique.
Les différentes confections de costumes ont constitué finalement
un stock.
Et
donc d'année en année, évidemment, les costumes, on les réutilisait parce qu'il y a un acquis qui était fait. Et ça a complété d'année en année. On a eu un stock assez important qui est aux alentours de 300 costumes. Et évidemment, c'est un plaisir de pouvoir chaque année, parfois, changer un élément, faire un petit peu, je veux dire, comme une nouvelle scénographie. Et moi, je m'occupais essentiellement, à ce moment-là, de faire les costumes du final. C'est-à-dire que si un thème, Tristan et Iseult, par exemple, était donné à ce moment-là, je m'occupais du spectacle principal. Et de ce fait, ben, ça permettait aussi tous les autres costumes qui avaient été faits les années précédentes, d'être récupérés, dispatchés, comme on va dire maintenant, dans des autres situations, des pièces, être prêtés aussi. Parce que tous les villageois avaient parfois même conçu eux-mêmes des choses magnifiques qu'ils avaient le bonheur de porter. Parce que je n'étais quand même pas toute seule, mais voilà.
Parmi toute votre carrière, beaucoup de choses un peu singulières ont dû se dérouler. On peut citer une anecdote, quelque chose d'assez particulier.
Oh, des anecdotes, en effet, dans la carrière, il y en a eu pas mal. Mais il y a eu, parmi ces anecdotes, justement, des très belles rencontres, notamment un long métrage que j'ai eu la chance de pouvoir faire en Guadeloupe en 89. Et où j'ai rencontré Jean-Yann, Daniel Mesguich et plein d'autres personnes. Mais étant donné que c'était juste après un typhon qui, hélas, avait beaucoup ravagé la côte, en fait, j'avais un lieu de travail, mais qui était sans électricité. Donc, j'avais des groupes électrogènes qui carburaient avec de l'essence, du pétrole, de l'huile. Et je repassais mes 400 uniformes dans une fumée noire, puisqu'évidemment, c'est un petit peu particulier, mais une gentillesse incroyable des habitants, des comédiens. Et ça reste un très beau souvenir d'accueil.
Y a-t-il une personne que vous avez particulièrement aimé habiller, costumer ?
En fait, dans les personnes que j'ai beaucoup aimé habiller, bien entendu, Alain Carré, bien entendu, Monsieur Mesguich, bien entendu, Hugo Becker, mais énormément de personnes, en fait, parce que chacun apportait quelque part la pureté de sa sympathie. Je veux dire, il est rare, exceptionnel même, que quelqu'un, je veux dire, si on ne sent pas des atomes crochus, bah, vous vous retirez. Vous dites c'est pas la peine, mais il y a eu énormément de très belles personnes, oui.
Pour conclure, il faut aimer les gens pour habiller.
Pour habiller les gens, je pense qu'il faut vraiment et les aimer et les respecter, parce que je pense que dans le mot amour, il y a aussi le mot respect, et il ne faut pas être intrusif, il faut connaître ses limites, et c'est comme ça qu'on se rencontre sur un même chemin.
C'était Dominique Louis, costumière, un entretien réalisé en résonance avec l'exposition Sur un fil ou l'art de se vêtir au Moyen-Âge, à retrouver au musée départemental de Saint-Antoine-l'Abbaye. Dominique Louis présente une collection de costumes et des podcasts associés. Cette exposition est visible au musée départemental de Saint-Antoine-l'Abbaye jusqu'au 11 novembre.